Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec aujourd'hui un sujet qui concerne bien sûr tous les passionnés de la langue française, à savoir d'où viennent nos mots, comment sont-ils sélectionnés, sont-ils validés, sont-ils approuvés? Qui s'occupe précisément de savoir, de donner son sésame, son accord pour que tel ou tel mot fasse son entrée dans la langue française? Alors il existe une institution dont on parle peu, qui est peu connue, et c'est aussi pour cela que Canal Académie existe, c'est pour faire connaître précisément les hommes qui s'occupent de la langue. En particulier avec la Commission Générale de Terminologie et de Néologie dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de son fonctionnement, de son histoire, de ses champs d'application, de ses succès, peut-être aussi de ses échecs, peut-être aussi également des missions qui pourraient être les siennes dans l'avenir. Pourquoi pas imaginer une commission qui soit davantage connue auprès du grand public, par exemple, qui ait davantage d'écho. On peut le souhaiter en tout cas ici à Canal Académie. Notre invité, Alexandre Grandazzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de cette commission?
Oui, depuis le renouvellement partiel qu'elle a connu en février 2005.
Avec bien sûr une précision d'importance, c'est que Gabriel Debreuil a cédé sa place. C'est lui qui était président de cette commission depuis le début.
Qui l'avait créé, on peut même dire voilà. Qu'il l'avait créé, qui en avait eu l'idée, qu'il l'avait créé, qu'il l'a porté véritablement pendant 10 ans. Et qui, compte tenu de ses nouvelles fonctions de chancelier de l'Institut, ne pouvait plus trouver le temps nécessaire, et il en faut beaucoup, pour présider nos travaux. Et il a donc souhaité que son confrère, Marc Fumaroli, le remplace.
On reprenne le destin de cette commission. Voilà. Du 3 juillet 1996 jusqu'à donc une période récente, c'était Gabriel Debreuil qui s'en occupait. Vous-même, vous êtes latiniste, professeur de langue et de littérature latine à Paris 4 à la Sorbonne.
Oui.
Et c'est à ce titre que vous êtes membre de cette commission. Comment y entre-t-on ? Est-ce qu'on est candidat ?
Non, surtout pas. On n'est surtout pas candidat et j'ai été très surpris, très heureux bien entendu, mais très surpris de recevoir un jour un coup de téléphone officiel m'annonçant que je pourrais bientôt faire partie de cette commission. Personnellement, c'est en ma qualité de latiniste que je suis membre de cette commission, puisque, comme chacun sait, pour nous latinistes, le français n'est que du latin continué. Donc c'est pour continuer cette continuation, n'est-ce pas, que je suis là. J'ajoute que chacun de nous, chacun des 13 membres de cette commission, qui est une commission générale, on va en reparler, est nommé et proposé au ministre de la Culture et de la Communication par un de ses collègues du gouvernement. Chacun donc de nous a été proposé par un ministère. En ce qui me concerne, c'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et le ministre de la Culture et de la Communication est là pour gérer les choses, mais nous dépendons. Il propose lui ensuite sa liste au Premier ministre, parce que nous sommes placés, et ça c'est très important,
très
sous
important.
L'autorité du Premier ministre.
Et pas du tout du ministère de la Culture, qui sert d'appui logistique,
voilà,
et stratégique.
Qui nous rend évidemment une aide extrêmement précieuse, que je tiens, bien entendu, comme tous les membres de la Commission, à saluer. Et je remercie ce ministère qui fait beaucoup pour nous. Mais si nous tenons à faire partie des services du Premier ministre, ou en tout cas à être plus exactement sous l'auctoritas du Premier ministre, c'est parce que nous légiférons, pour ainsi dire, dans un domaine qui intéresse tout le monde. Et nous espérons que nos décisions, plus exactement nos recommandations, puissent avoir, lorsqu'elles sont diffusées dans les ministères et dans les administrations, dans les services publics, dans les établissements à caractère général, une plus grande efficacité parce qu'elles sont contresignées par le Premier ministre.
Alexandre Grandazis, je précise également que vous êtes l'un des plus éminents spécialistes des origines de Rome.
Oui. Enfin oui, effectivement, c'est ma spécialité.
Donc ça compte aussi quand même, vous avez un regard avec une profondeur de champ dans le temps.
C'est-à-dire que pour moi...
Vous aimez l'histoire longue.
Je vous ai dit que le français est du latin continué, voilà. Mais moi j'en suis à penser que le latin est de l'indo-européen continué. Donc, effectivement,
expliquez.
Ça donne, comme chacun sait, le latin comme le grec ont une origine linguistique commune qui est qu'on a reconstitué uniquement par théorie, parce qu'on n'a jamais rencontré des locuteurs de cette langue préhistorique, qui est l'indo-européen, dont on a découvert l'existence à la fin du XVIIIe siècle parce que quand l'Inde était occupée par les Anglais, par des Anglais qui avaient fait de très bonnes études, ils avaient fait et du latin et du grec, et puis c'était des gens curieux d'esprit, comme on l'est toujours lorsqu'on a fait et du latin et du grec, n'est-ce pas ? Et ils ont voulu apprendre la langue sacrée, religieuse du pays qu'ils occupaient, qui est le sanskrit, et ils se sont rendus compte, à leur grande surprise, dès qu'ils ont commencé à apprendre le verbe être en sanskrit, que c'était très proche du latin, et que beaucoup d'autres mots étaient proches et du latin et du grec. Et cette découverte fortuite, empirique, a tout de suite eu des grandes conséquences théoriques, et quelques années plus tard, notamment sous l'influence d'un linguiste allemand qui s'appelait Bopp, B-O-P, on a élaboré la théorie que, étant donné que les locuteurs du latin, les locuteurs du grec, les locuteurs du sanskrit n'avaient pas été à époque historique en contact les uns avec les autres, le latin et le grec à la rigueur, bien sûr, mais le sanskrit non, ceux qui parlent le sanskrit non, la seule explication possible à des homologies, des ressemblances très très fortes, structurelles, par exemple les racines du verbe être par exemple, c'était qu'il y avait une origine commune, et on a imaginé que ceux qui parlaient cette langue originelle devaient habiter au nord de l'Inde, vous voyez, au sud de ce qui était naguère l'URSS, et on a appelé ça les Indo-Européens. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait d'accord sur les localisations qui ont été proposées au 19e siècle, mais on continue à parler d'Indo-Européens.
Mais la filiation...
Et le latin est une langue Indo-Européenne.
La filiation est indéniable, latin, grec, sanskrit.
Indéniable.
C'est une traçabilité...
Mais pas seulement le sanskrit, pas seulement le grec, vous avez l'iranien ancien,
oui.
Vous avez l'avestique, vous avez certaines formes de l'allemand gothique, enfin vous avez beaucoup de langues qui sont Indo-Européennes.
Cette traçabilité historique, pour évoquer ce point, elle peut être attestée sous de multiples formes. On garde des traces dans notre langue.
Bien sûr. Comment dit-on, par exemple, père et mère? On dit pater et mater. Comment l'en dit-on en sanskrit? Pater, mater. En grec, pater, mater. Vous voyez, en latin, pater,
en sanskrit
mater.
Également.
Donc, vous avez là quand même des marqueurs très forts. Alors, je dirais que l'indo-européen, c'est donc uniquement une langue reconstituée. Personne n'a rencontré des Indo-Européens. On essaie de les identifier archéologiquement, parce qu'on les place vers 5000, 3000 avant Jésus-Christ, mais même ça, c'est contesté, mais ce n'est pas facile à faire. Mais on n'a pas de support, on n'a pas de document écrit Indo-Européen. On sait simplement que le latin et le grec viennent à un degré divers, le latin étant d'ailleurs la couche la plus ancienne, parce que ceux qui sont partis les premiers, n'est-ce pas, du foyer indo-européen, sont allés aux marges les plus loin. Donc les latins, c'est de l'indo-européen plus ancien que le grec. Et on sait simplement qu'ils sont d'origine indo-européenne. Et je dirais, pour en revenir à notre sujet, que cette conscience linguistique que me donne donc mon travail de latiniste, cette conscience d'une histoire longue, comme vous disiez très justement, très longue même, m'aide, je crois, dans mon appréhension de mon travail de terminologue à la commission. Je dirais que le latin, c'est, et vis-à-vis des langues dites latines, n'est-ce pas, qui sont très nombreuses, comme chacun sait, le latin est dans la même position que l'indo-européen était vis-à-vis, vous voyez, du grec, du sanskrit, l'iranien ancien, etc. Donc, le français évolue, nous le voyons évoluer, il ne faut pas du tout s'en inquiéter, et justement, mon travail d'historien me montre que c'est tout à fait normal que le français évolue.
Alors, Alexandre Grandazzi, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a ce conflit, puisque vous parlez d'évolution, ce conflit entre l'usage et la norme. Est-ce qu'une commission générale de terminologie et de néologie s'est faite pour imposer une norme aux dépens de l'usage ?
Oui, alors vous avez tout à fait raison de poser cette question. Et c'est vrai que lorsque parfois le grand public entend parler, vous l'avez dit justement, en fait il n'en entend pas parler, mais enfin, à supposer que parfois il entend parler de notre commission, il y a cette réaction qui consiste à dire « mais le langage, c'est notre affaire, puisque c'est l'affaire de tous, c'est donc l'affaire de chacun, de quoi vous mêlez-vous, et n'allez pas nous imposer une norme, etc. »
Pas d'autorité.
Voilà. Et c'est assez à la mode, n'est-ce pas, cette conception. Mais il faut bien voir que la Commission générale de terminologie et de néologie ne prétend en aucune manière surveiller l'évolution contemporaine du français.
Ah, quand même. Et, regardez ce que j'ai sous les yeux.
Laissez-moi finir. Elle ne prétend pas dire aux gens comment il faut parler. Elle prétend simplement, face à l'invasion des termes anglais, qui sont omniprésents, notamment dans les secteurs techniques, technologiques, administratifs, elle prétend simplement qu'au lieu d'employer des termes anglais, nos administrations, nos établissements publics, nos médias emploient des termes français.
Trouver des équivalents.
Trouve des équivalents. Donc, ne prétendons pas imposer les normes du français. Lorsque le sentiment populaire trouve spontanément un mot pour désigner une réalité qui a pu être désignée auparavant par un terme anglais, nous faisons en général en sorte que ce mot, s'il est bien trouvé, soit accueilli. Mais la situation aujourd'hui, c'est que un mot, même anglais, est fiché comme anglais, américain, etc., reste dans la langue. Et c'est ça que nous voulons et que les pouvoirs publics veulent éviter. Parce qu'il faut bien réfléchir que si on ne fait rien, on ne parle plus français. Et je peux vous dire que nous avons de très éminents anglicistes dans notre commission. Ils peuvent nous assurer qu'on ne parle pas anglais non plus.
Mais une langue ne résiste pas par décret.
Il faut voir que dans un pays comme la France, l'administration au niveau aussi bien régional que central, est productrice d'une énorme littérature, je dirais une littérature grise, des textes, qui fatalement ont une valeur un peu normative, puisqu'ils s'imposent dans leur domaine, et que ça serait quand même dommage de laisser cette production écrite, qui est importante au moins en quantité, substituer une espèce d'anglais, plus ou moins d'ailleurs inventé ou détourné d'ailleurs de son sens originel,
on par le verra rapport justement au français. Alors justement, je disais que j'avais sous les yeux quelques fascicules, quelques livrets vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication,
oui.
Donc c'est vous qui le produisez. Le vocabulaire de la défense, vocabulaire des techniques de l'information et de la communication, et ainsi de suite. Le domaine scientifique joue aussi un rôle primordial.
Énorme, oui.
Comment faites-vous votre marché? Comment allez-vous butiner les termes que vous estimez devoir faire l'objet d'un examen? Ce sont des commissions, il y en a 18 qui vous font voilà. remonter l'information.
Alors, depuis 1970 exactement, ont commencé à exister face à ce problème qui se pose à notre civilisation, encore une fois, non seulement technique mais technologique, ont commencé à exister des un peu spontanément, des commissions ministérielles spécialisées. C'est-à-dire que du côté du ministère de l'Agriculture, enfin ça je suis pas totalement sûr, hein, des exemples précis, du côté du ministère des Communications, dès 1970, on s'est dit qu'il fallait établir une norme puisqu'on voyait des appareils nouveaux, qui en général étaient d'une technique ou en tout cas d'une nomenclature anglo-saxonne, et qu'il fallait bien les désigner par des mots français. Exigence que je pense personne ne contestera. Donc il y a des commissions ministérielles qui se sont, à partir de 1970, date de la plus ancienne d'entre elles, ajoutées les unes aux autres. Et tout ça a fini par devenir un petit peu désordonné. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs commissions qui fonctionnaient chacune et qui n'avaient pas assez d'autorité nécessaire pour imposer leurs termes. Donc est venue l'idée d'une commission générale qui filtrerait, validerait les termes proposés par ces différentes commissions ministérielles et s'occuperait aussi de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de faire connaître ces termes et le travail, n'est-ce pas, de ces commissions.
3 juillet 1996, 4 août 1994, c'était la loi Toubon.
Oui.
Il y a un lien direct entre ces deux dates ?
Oui, il y a un lien direct dans la mesure où la loi Toubon a été contestée et elle a été, vous le savez, portée pour examen devant le Conseil constitutionnel. Et qui, alors je résume une décision complexe, mais qui en gros a dit à l'État, vous n'avez pas le droit d'imposer les termes, mais seulement de les recommander. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette décision, mais elle s'impose à tous puisque c'est une décision du Conseil constitutionnel. Donc, par rapport à cette décision, les pouvoirs publics ont donc, sous l'impulsion, je crois, personnelle de Gabriel de Breuil, mis sur pied cette commission générale de terminologie et de néologie qui se fixe donc comme tâche, comme mission de filtrer, de valider les propositions faites par les différentes commissions ministérielles et ensuite de les faire connaître pour avis et recommandations.
Hein, donc c'est presque une réponse au Conseil constitutionnel.
Bien sûr, mais ça c'est normal, c'est comme ça que se passent les choses dans une démocratie.
Mais ça veut dire, Alexandre Grandadzi, que si le Conseil constitutionnel n'avait pas rendu la décision qu'il a rendue, cette commission n'aurait peut-être pas vu le jour ?
Je pense qu'elle aurait, d'une manière ou d'une autre, vu le jour, mais peut-être un peu plus tard. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, disons que ça a été l'urgence, là. Et vous savez que l'urgence est souvent productrice de bonnes solutions, finalement.
À tout de suite.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous.
Une seule radio.
Sur Internet.
Canal Académie.
Avec nous, Alexandre Grandazzi, l'un des 13 membres de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie, au moment où Marc Fumaroli, membre de l'Institut, reprend les fonctions de Gabriel De Breuil, devenu chancelier de l'Institut. C'est donc après 10 ans d'existence, le 3 juillet 1996, que s'écrit en continu cette histoire de la Commission Générale de Néologie, de Terminologie et de Néologie. Alexandre Grandazzi, je rappelle que vous êtes latiniste, professeur de langue et de littérature latine à la Sorbonne. On peut le rappeler aussi, vous avez écrit avec Jacqueline de Romilly Une certaine idée de la Grèce aux éditions de Fallois. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de manière fort intéressante de cette filiation qui existe aussi entre le grec, le latin et le sanskrit pour montrer que vous vous situez dans l'histoire longue. On a parlé du fonctionnement de cette commission, des sous-commissions, comment les choses se sont constituées, comment les termes remontent. J'aimerais, parce qu'évidemment on est impatient, on sait qu'il y a des fascicules, des livrets, des recommandations. Quels sont les succès? Le succès peut-être de cette commission, c'est d'abord... Allez, un mot, baladeur par exemple?
Baladeur, oui, je crois, est un grand succès qui a remplacé...
Walkman.
Voilà, c'est ça. On commence, heureusement,
C'est vrai que ça fait ringard, Walkman, maintenant.
Voilà. Mais rappelez-vous, peut-être êtes-vous trop jeune pour vous le rappeler, moi je me le rappelle très bien, c'était un mot qui s'était complètement imposé, qui semblait vraiment enraciné et indélogeable. Et en quelques années, finalement, baladeur. Je ne suis pas sûr que la commission, d'ailleurs, ait inventé le mot. Peut-être l'a-t-elle repris, il faudrait voir la fiche technique, l'a-t-elle repris à nos amis belges ou à nos amis canadiens qui jouent un très grand rôle dans la création linguistique. Et quand nous pouvons reprendre une de leurs créations spontanées, si je puis dire, nous le faisons. Mais en tout cas, baladeur, qui a été très fortement recommandé par notre commission, par l'organe de toutes ses publications et ses avis, vous venez de le dire, c'est imposé. Et ce n'est pas, heureusement, ce n'est pas le seul exemple.
Mais alors, le combat continue. Aujourd'hui, on a le fameux podcast.
Oui.
Qui pourrait justement s'inspirer de baladeur, avec
exactement.
Balado-diffusion.
Oui, alors nous l'avons proposé, je crois, balado-diffusion, et pour l'horrible verbe podcaster, n'est-ce pas, qu'on entend hélas, y compris sur des médias nationaux, je note que podcast et podcaster n'ont pas disparu. Donc, il faut se battre, et pour podcaster, je crois que nous proposons télécharger, qui est, vous le voyez, très simple.
Et qui est quand même...
Qui est clair, je crois.
Oui,
qui
voilà, est
clair.
Relativement banal,
qui est parlant,
enfin connu de
qui
tous.
Qui est banal, mais il y a une espèce de snobisme du mot anglo-saxon. Pour l'instant, c'est anglo-saxon. Ça sera peut-être un autre univers linguistique dans quelques temps, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se mettre à parler chinois, je ne l'exclus pas. Vous savez, il y a des snobismes qui reflètent en réalité actuellement la domination économique et culturelle, disons, du continent nord-américain.
Du plus fort. C'est souvent
voilà,
le rapport entre dominé
oui,
et dominant.
Hein. Exactement. Mais le dominé, on a l'impression parfois, aime se faire dominer parce que, après tout, nos amis américains ne nous demandent pas d'introduire ces mots qui sont, encore une fois, au témoignage même des anglicistes et des américanistes les plus éminents, incompréhensibles pour les Anglais et les Américains eux-mêmes. C'est-à-dire que nous créons une espèce d'anglais pour faire anglais et qui, en fait, n'est pas anglais.
Alors là, les exemples sont nombreux aussi.
Très nombreux.
Lequel vous viendrait à l'esprit spontanément?
De mots anglais qui
oui, de mots anglais
un peu
bâtard, qui n'en est pas. En fait, une sorte de franglais.
Ben, je crois qu'un anglais ou un américain n'a jamais compris ce que c'était qu'un parking, d'après ce qu'on m'a dit.
C'est parking lot, je crois.
Oui, c'est ça.
Ou car park.
Voilà, c'est ça. Mais ils ne comprennent pas, a priori, disons, ce que nous voulons dire par là. Et il y a d'autres exemples. Je ne suis pas assez angliciste pour
tennisman,
vous.
Tennisman, tout
voilà,
ça.
Je crois qu'effectivement, ce sont des cas où, en réalité, la création lexicale se fait du côté français, mais en anglais. Ce qui est la chose que nous voulons éviter. Mais
ce qui ajoute une dérive à une confusion.
Mais encore une fois, nous n'avons rien, il faut que je le dise, parce que ce n'est pas un combat contre, c'est un combat pour. Nous ne sommes pas contre l'anglais. Dans notre commission, il y a de très éminents spécialistes de la langue anglaise ou de la littérature américaine qui parlent merveilleusement cette langue et qui nous, dans les conversations privées que nous pouvons avoir, nous font apprécier telle ou telle œuvre. Mais nous ne sommes pas contre l'anglais. Nous sommes pour, je dirais, la qualité de notre langue qui se trouve être le français.
Que les choses soient bien comprises, hein, de ce point de vue.
C'est pas un combat
grincheux, d'arrière-garde.
Voilà, ça prend parfois, évidemment, des allures de recommandations négatives, mais nos fiches, si vous regardez, puisqu'elles sont, nos avis sont publiés, on va en reparler au journal officiel, sous une rubrique avis et communication, nous ne disons pas, il ne faut pas dire, nous disons tel terme, et nous donnons une définition, et puis à la fin de la fiche, il y a une petite rubrique équivalent étranger. Vous voyez, c'est tout. Donc, nous constatons l'existence d'un équivalent étranger et nous souhaitons simplement que cet équivalent reste étranger.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc, ce n'est pas un combat contre, encore une fois, c'est un combat pour la qualité de la langue qui est notre bien commun. Et je crois que c'est ça qui est important.
Exemple pris justement dans le livret consacré au vocabulaire des techniques de l'information et de la communication. « To reset » en anglais, vous recommandez « réinitialiser » tout simplement. Donc, il y a écrit « domaine informatique, définition, remettre un système informatique ou une application dans son état initial, équivalent étranger, to reset », tout simplement. C'est donc d'un usage extrêmement simple.
Oui, oui, oui. Alors, ces fascicules que vous mentionnez sont distribués, peut-être, pourrait-on encore augmenter la diffusion.
Un peu trop confidentiellement, peut-être.
Voilà, mais ils sont distribués au départ aux administrations ou aux médias concernés. C'est-à-dire que nous les envoyons lorsqu'il nous apparaît que dans un domaine, nous avons examiné suffisamment de termes qui forment une espèce d'ensemble homogène. Nous les publions sous la forme d'un petit fascicule qui est du point de vue bibliographique, comment dirait-on, c'est un IN12, peut-être même un IN16, n'est-ce pas, qui fait une centaine ou 150 pages, qui est donc très maniable, qu'on peut glisser dans une poche.
Sur n'importe quelle table de rédaction.
Voilà, qu'on peut mettre sur une table de rédaction, il fait quelques dizaines de grammes, et qui rassemble les mots en usage dans tel ou tel domaine. Je sais que je ne l'avais pas là sous la main pour vous l'apporter, mais je sais que nous avons récemment publié un fascicule de la banque et des techniques financières et je l'ai distribué. Il m'est souvent réclamé par bien des amis et il est, je crois, très utile.
Mais alors, pour avoir connu quelques rédactions, j'ai pu vous dire que certains fascicules doivent rester quelque peu soit dans les placards, soit sur le bureau du directeur. Et ça, peut-être, effectivement, c'est toute la question.
Et c'est d'où l'utilité d'un entretien comme celui que j'ai le plaisir d'avoir avec vous aujourd'hui.
Alors, Alexandre Grandazzi, comment se passent les réunions de la Commission Générale de Terminologie et Néologie ?
Secret.
Secret. Puisque les mots vous remontent, vous arrivez avec une liste qui vient des sous-commissions. J'imagine que la première chose... Vous avez eu une réunion depuis lors avec Marc Fumaroli.
Oui, alors nous avons eu la réunion d'adieu de Gabriel Debreuil par rapport à la Commission Générale et en même temps d'intronisation de Marc Fumaroli qui s'est passée rue de Valois au ministère de la Culture en présence du ministre et de représentants du Premier ministre. Et depuis, nous avons eu, puisque c'est encore très récent, nous avons eu une séance présidée par Marc Fumaroli. Alors, comment ça se passe ? Je dirais d'abord que ça se passe dans la bonne humeur, parce que, je me permets de le souligner, aussi bien les sous-commissions que la Commission Générale, en tout cas pour la Commission Générale, parce que les sous-commissions comportent aussi des fonctionnaires des ministères, mais tout le monde est là parce qu'il le veut bien et à titre entièrement bénévole, n'est-ce pas ? Donc, ça se passe dans la bonne humeur et nous sommes tous animés par une conviction profonde et commune et partagée, je dirais, qui est que à notre modeste place, nous essayons de servir notre langue et on a tous l'idée que parce qu'on a préparé la séance en analysant les documents nombreux qui nous sont fournis par les services de la délégation générale à la langue française, qui est présidée par Xavier Nortes et qui joue un rôle très important dans notre dispositif. Donc en regardant et en étudiant dans les jours qui précèdent, notre commission a lieu le mercredi à la délégation générale, rue des Pyramides, nous avons eu chacun des idées. Tiens, tel terme, telle définition, il faudrait changer telle virgule ou changer tel mot, tel terme, tiens j'ai une idée, tel mot, ça serait bien, etc. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes 13, mais il y a aussi des experts qui sont venus, des experts du CNRS, des experts, donc nous sommes une bonne vingtaine, et je dirais que de la discussion jaillit la lumière, c'est-à-dire que la somme des idées de chacun est inférieure à la somme produite par une séance de notre commission. 1 plus 1 ou 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 13 égale plus que 13 en réalité. Parce que, justement, nous discutons, chacun intervient, le président donne la parole à chacun successivement, les échanges sont extrêmement courtois, et chacun essaye évidemment parce que nous avons très peu de temps, nos séances durent 3 heures et demie, et nous avons des dizaines de termes à examiner, donc nous sommes toujours...
Une centaine à peu près par séance.
Oui, enfin, une centaine c'est beaucoup, mais disons, oui... Enfin, on va peut-être revenir sur ce détail, enfin qui n'en est pas un. Mais donc nous essayons d'avoir une discussion la plus dense possible et en même temps on essaye de montrer évidemment aux petits camarades qu'on a eu des bonnes idées. Mais je crois que c'est l'addition et c'est ces échanges dans leur réalisation même qui sont souvent productifs. Je l'ai souvent ressenti.
Mais ça veut dire,
Alexandre... Et je ne suis pas le seul, je sais que d'autres ont ce sentiment aussi dans notre commission.
Alexandre Grandazzi, ça veut dire que... Il y a une sorte de rivalité entre les membres de la commission pour arriver à imposer son avis sur tel ou tel terme,
oui, alors,
puisque vous avez peu de temps pour vous exprimer et il faut que ça passe.
Voilà. Alors nous sommes une commission de terminologie et de déologie. Donc nous avons toujours le droit, mais dont nous essayons de ne pas abuser, d'inventer un mot. Et parfois, il a pu arriver à tel ou tel, à moi par exemple, de se dire, bah, tiens, telle expression, comme je vous l'ai dit en général, c'est anglais. Voilà, j'ai inventé un mot.
Alors, quel mot avez-vous inventé déjà?
Je ne peux pas le dire, parce qu'il n'a pas été retenu. Je vais vous expliquer. Alors, on teste ce mot dans son entourage. Moi, j'avais inventé un mot. Choisi un mot qui avait l'air d'être un peu en usage au Québec, mais qui était enfoui dans des fiches. Et j'avais testé auprès de mes enfants. Ça avait l'air de plaire. Donc, j'ai défendu ce terme dans un premier... Alors, j'avais préparé un petit couplet. Comme c'était la création d'un nouveau mot, on est passé au vote. Parce que certains étaient contre, certains pour. Donc, j'étais assez vigoureusement pour l'idée que je défendais, le mot que je voulais imposer. Et le vote a été favorable au terme que je proposais.
Et les décisions se prennent à la majorité?
Vous allez voir. Oui, enfin, dans ce cas, oui. Parce que la discussion avait été vive. Donc, on avait procédé à un vote. Et le mot, alors ce qui se passe et ce qu'il faut dire, c'est d'ailleurs pour cela que je raconte cette petite histoire qui autrement n'aurait pas d'intérêt, c'est que nos travaux sont placés sous la tutelle de l'Académie française, avec qui nous travaillons en très étroite collaboration puisqu'elle a un représentant dans toutes les sous-commissions ainsi que dans la commission générale où figure, comme vous l'avez vu, membre de droit Madame Carrère d'Encausse, donc maintenant Monsieur Marc Fumaroli qui a lui-même succédé donc à Monsieur De Breuil, et Monsieur Éric Orsenna est lui aussi membre de cette commission, et nous avons de toute façon aussi parmi nous Monsieur Pasqualini qui travaille à l'administration du dictionnaire de l'Académie. Donc toutes ces personnalités font la liaison entre l'Académie et nous, et un terme ne peut être publié par notre commission en tant qu'avis et recommandation publié au journal officiel que s'il a reçu l'aval de l'Académie. Et ça a été emporté de hautes luttes dans les années 94-96 où il y avait chez certains, il faut bien le dire, la volonté de s'émanciper. Chez certains, je ne parle pas de notre commission, je parle de, disons, dans le dispositif culturel voire politique de l'époque. L'idée, c'est que l'Académie française représentait quelque chose de trop attaché à la tradition et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre la contourner. Et
mais ça aurait été
évidemment très grave.
Oui.
Et les choses ont été remise d'aplomb, et nos travaux sont donc placés sous la tutelle. Enfin, c'est pas la tutelle, c'est pas le mot, parce que quand on dit tutelle, ça fait un peu lointain. La bienveillante collaboration de l'Académie française.
Alors, ça veut dire que si le membre de droit de l'Académie dit non au mot proposé,
je vais terminer ma petite histoire. En l'occurrence, l'académicien ou les académiciens présents, ne serait-ce que son président, avaient avalisé ma proposition par rapport à l'histoire que je vous ai présentée. Mais lorsque la proposition, il est vrai que je n'étais pas là pour la défendre, est venue devant les académiciens, ils l'ont trouvée sans doute inutile, ce qui fait que nous avons eu un avis défavorable, ce qui arrive assez souvent, hein, et donc nous nous sommes rabattus sur une autre solution.
Donc l'Académie a
donc,
quand
voyez,
même là
nous,
vraiment
nous
un rôle
avons,
un rôle de verrouillage hein, quand même hein,
oui,
de...
oui oui. Alors en
décisionnaire,
l'occurrence,
hein.
Vous voyez, en l'occurrence, c'était la création d'un mot, c'était quand même un néologisme. Bon, il avait été défendu avec énergie. Alors c'est peut-être pour cela que mes confrères m'avaient accordé qu'on le présente. Mais en réalité, peut-être avec un peu plus de sang-froid et de recul, une institution comme l'Académie a jugé que, vous voyez, et bien entendu, j'accepte cet avis. Mais nous avons tous l'ambition, j'imagine, dans notre commission, d'arriver pendant notre mandat, peut-être à faire passer, vous voyez,
à créer un mot. Un mot
mais
qui dure dans la langue, ça serait merveilleux.
Voilà. Mais en réalité, ce que je peux dire, c'est que nous n'allons pas spontanément vers le néologisme dans la mesure où c'est toujours périlleux de créer un nouveau mot. Alors nous essayons toujours de favoriser quelque chose qui existe déjà, mais ça peut être en Belgique et ça peut être au Canada ou au Québec.
Alexandre Gandadzi, vous restez avec nous.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Alexandre Grandazzi, de nouveau avec nous, professeur de langue et de littérature latine à la Sorbonne, spécialiste des origines de Rome, latiniste, membre, l'un des 13 membres de la Commission générale de terminologie et de néologie dont nous essayons de comprendre le fonctionnement et que nous essayons aussi, ne nous le cachons pas, de faire connaître, puisque celle-ci, si elle est connue des administrations, puisque on l'a vu à l'instant, travaille en sous-commission dans les ministères, les mots remontent, sont étudiés par la commission générale. Après sa redescence sous forme de fascicule, on en a dit un mot, on a pris des exemples. Bah, bien souvent, le grand public ignore ces mots ou alors il les apprend au détour de la presse. Et là, les médias ont certainement un rôle, Alexandre Grandazzi. Vous nous avez aussi parlé donc du néologisme. Comment ça se passe dans une commission quand on propose un mot, que l'Académie française a un rôle décisionnaire en la matière pour accepter ou rejeter ce mot? Évidemment, on imagine que ça représente un défi pour ses membres de bien savoir sûr. Si un jour ils pourront faire naître, faire éclore un mot dans la langue française et le faire accepter
mais peut-être que
par
ce
tout le monde.
Peut-être ce désir n'est-il pas raisonnable?
Alors j'ai une question là.
Parce
un
que
peu,
la, puisque... finalement la création lexicale elle est collective, inconsciente,
oui.
Collective, plurielle. Et peut-être que notre rôle c'est simplement de... Ben, une barrière par rapport à des termes qui sont clairement venus d'un autre horizon lexical et de réguler parmi des propositions qui existent déjà.
Alors, puisque vous êtes un spécialiste donc du monde antique,
oui.
Si vous vous étiez trouvé à l'époque, je ne sais pas moi, gallo-romaine, membre d'une commission sur le latin, est-ce que vous auriez refusé que le bas latin devienne du français? Comment auriez-vous agi à l'époque?
Je vous vois venir. Je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais vous dire qu'en tant que latiniste, je pense que le latin a beaucoup à apporter, le grec aussi, hein, bien entendu, à la vie actuelle et future du français. Et je vais vous raconter une petite histoire. Avant, c'était bien longtemps avant l'existence de la naissance de la Commission générale de terminologie et de néologie. Nous étions, si j'ai bonne mémoire, en 1954. Enfin, je parle au vu de documents historiques que je voulais vous apporter puis que je n'ai pas retrouvé. Et une personnalité qui, à l'époque, était président, directeur général d'une usine de ce qu'on appelle en Amérique les computers, qui était, je crois, la firme longtemps la plus connue, j'oublie son nom.
Microsoft,
non,
Macintosh.
Elle n'existait pas.
Je cite des marques, là.
Oui, il ne faut pas. le président d'une firme américaine très connue avait donc besoin de nommer un nouveau type de machine beaucoup plus petit que ceux qu'il fabriquait jusqu'à présent. Et il se trouve qu'il avait un ami qui était professeur de langue et littérature latine à la Sorbonne à Paris 4. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas moi parce que j'étais pas né à l'époque. Mais il lui a donc écrit ou téléphoné, je ne sais, pour lui demander de donner un nom à ces petites machines qui permettraient donc de calculer beaucoup plus vite et d'une façon beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait jusqu'alors. Et le latiniste en question, qui était Jacques Perret, latiniste, grammairien, spécialiste de Virgile, lui a répondu une lettre dont la délégation générale d'ailleurs a republié le texte il y a quelques mois, où il lui disait « J'ai bien, cher ami, j'ai bien réfléchi à votre demande qui est très intéressante. Alors j'ai regardé le dessin que vous m'avez fait porter parce que l'autre lui avait mis un schéma de ses machines, computers, etc. Alors je vous propose, alors puisqu'il s'agit de machines et que le mot est féminin, je trouve chez Bossuet, à propos de, pour qualifier Dieu, un mot qui me plaît bien puisque votre machine consiste à mettre en ordre des séries numériques, je vous propose « ordinatrice ». Et puis, il continue la lettre en disant « Mais finalement, ordinatrice, ça a un petit côté un peu déplaisant. Et je pense que le masculin ordinateur, bien que ce soit un masculin, passera mieux. » Et la lettre donc se termine ainsi. Et vous voyez que nous utilisons donc le mot ordinateur. Alors, Jacques Perret était donc, vous le voyez, une commission générale de terminologie et de néologie à lui tout seul. Alors, si j'avais mauvais esprit, ce que je n'ai pas, je dirais que c'est précisément parce qu'il était tout seul qu'il a pu mettre sur pied un néologisme. Et vous voyez, il s'est occupé puisqu'il...
Et peut-être que sans lui, on n'aurait pas trouvé le mot.
Et peut-être qu'avec aujourd'hui une commission générale de terminologie, nous n'arriverions pas, peut-être... lié à la qualité de cette proposition et lié surtout peut-être à la rapidité et à l'efficacité de la transmission de l'information. Mais c'est du mauvais esprit. Toujours est-il que vous voyez, là c'est vraiment l'exemple de ce que peut apporter le latin un ordinateur, quel mot plus banal et en même temps plus moderne que celui-là. C'est l'exemple de ce que peut apporter le latin par rapport aux exigences de création lexicale qu'entraîne le développement technologique.
Difficile.
Et remarquez que les autres langues européennes n'ont pas ce mot. Nos amis italiens disent computer. Donc nous avons là vraiment un mot qui a été créé artificiellement, on peut dire, mais qui est totalement consonant par rapport aux habitudes de la langue française et qui est très très bien passé. Et d'ailleurs, il faut l'original de cette lettre, le texte de cette lettre a été reproduit parce qu'on a été chercher dans le bureau du président directeur général, il y a encore affiché au mur la lettre de Jacques Perret, et c'est là qu'on a été recopier le texte auquel je faisais allusion avec cette proposition merveilleuse, n'est-ce pas, d'ordinateur. Donc notre but, c'est de proposer de nouveaux mots comme ordinateur.
Alors c'est prodigieux d'imaginer que bien sûr c'est né dans l'esprit d'un seul homme, que ce mot a pu se répandre si vite, qu'il a été tout de suite accepté.
Parce que ça se faisait au niveau du président directeur général, oui, qui tout de suite a demandé à ses services commerciaux de l'appeler ainsi.
Ça veut dire que avec un très petit nombre de personnes, on peut, oui, considérablement influencer une langue.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est une idée qui peut surprendre et qui, en réalité, est une idée antique. C'est ce que Platon appelle le nomothète, celui qui crée les mots. Et c'est une prérogative divine et donc une prérogative qui appartient au pouvoir suprême. D'où le fait que notre commission, dirais-je, pour revenir sur Terre, dépend du Premier ministre, n'est-ce pas ? Effectivement, ça peut surprendre, mais en réalité, c'est une constante de l'histoire européenne que le pouvoir politique, quand il a la conscience de ses devoirs, s'occupe de la langue et a une influence sur le développement de la langue. Moi, ça ne me choque pas parce que ça correspond totalement aux leçons de l'histoire et je dirais à la logique des choses aussi.
Alors Alexandre Grandazzi, pour revenir
mais ça
à des choses...
Pas. Je, oui, vous interromps un instant, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient mal compris. Ça n'est pas incompatible avec une créativité lexicale spontanée, populaire et anonyme. Hein. Dans mon esprit, les deux ne sont pas incompatibles.
Oui, il ne s'agit pas de
voilà,
baliser
à l'excès. Il ne s'agit pas de préférer une voix plutôt que l'autre. Il, voilà, s'agit de profiter...
De mettre des barbelés autour de la langue.
Exactement, exactement.
Il y a un domaine, bien sûr, qui préoccupe tous ceux qui sont attachés au français, c'est le domaine scientifique, puisqu'on sait que la plupart des travaux dans ce domaine sont publiés en anglais. La question des brevets aussi se pose. Bref, nommer ce qui relève de l'invention, ce qui relève de la science, ce qui relève de l'avenir, c'est bien souvent nommé en anglais. Est-ce,
oui,
que là-dessus,
là,
vous avez beaucoup de mots qui vous parviennent?
C'est l'essentiel.
Comment ça se passe?
C'est l'essentiel de notre travail. Par exemple, cette année, nous avons examiné des listes de la chimie, des listes de qui venaient des commissions spécialisées de l'ingénierie nucléaire, des listes du vocabulaire spatial. Et quand vous avez, par exemple, à donner la définition de résidu de spallation, n'est-ce pas? C'est pas toujours...
Et là, vous faites appel à des experts,
évident,
dans ce cas.
Bien entendu, nous faisons appel à des experts. Nous avons parmi nous des scientifiques de très haut niveau, membres de l'Académie des sciences, physiciens éminents, et ils nous aident. Ils viennent parfois avec des dessins, hein, et ils nous aident à nous représenter ce qu'est telle ou telle pièce de moteur, de dispositif technique. Et c'est pour cela que le fait qu'il y ait un dialogue entre des experts et la presque totalité des membres de la commission qui ne sont pas spécialistes de ces techniques est important parce que nous essayons de proposer une définition qui soit intelligible
par
tout un chacun une fois qu'elle sera publiée au journal officiel.
Donc en réunion, vous évaluez tout de suite de la pertinence d'un mot ?
Voilà. Alors, il arrive assez souvent que les commissions spécialisées, elles sont spécialisées. Donc, elles nous proposent des termes et surtout des définitions qui, pour elles, sont évidentes, mais qui, pour nous, ne le sont pas. Et donc, nous faisons un travail, même quand nous acceptons leurs termes, nous faisons un travail important sur la définition pour qu'elle soit la plus compréhensible possible. Cela dit, c'est une tâche de Sisyphe, cette tâche qui consiste à créer des termes remplaçant les termes qui sont la plupart du temps anglais dans les domaines techniques, voire technologiques. Parce que, vous avez raison de le dire, la plupart du temps, les termes utilisés sont anglais et là, il faut bien voir que beaucoup de nos propositions resteront lettres mortes. Mais ce que nous voulons éviter, c'est que des termes venus d'un univers technique ou technologique déterminé franchissent la barrière du grand public et restent anglais. Et ce sont souvent des acronymes, des abréviations, ces termes. Et quand vous regardez l'abréviation, vous apercevez que c'est une abréviation d'un terme anglais. Donc, c'est vraiment incompréhensible, je dirais, à double titre. Donc c'est à ce stade-là, à ce stade de la diffusion, ou sous l'effet du snobisme, ou sous l'effet de telle mode, de la diffusion dans le grand public, que nous essayons tout de même d'agir. Nous essayons aussi d'agir quand c'est possible, en accueillant des hautes personnalités dans les commissions spécialisées travaillant dans ces domaines-là, et en faisant connaître nos travaux le plus possible à la source, c'est-à-dire auprès du commissariat à l'énergie atomique, auprès des gens qui s'occupent de concevoir et de faire marcher la fusée Ariane, etc. Nous leur adressons directement aux ingénieurs et aux directions qui élaborent ces programmes spatiaux, nous leur adressons directement nos recommandations.
Mais ce n'est pas du tout une activité pépère, puisque vous êtes obligé d'être très réactif.
Oui, alors nous sommes
quand
obligés
un mot
d'être
arrive, il faut
très, très réactif parce
réagir.
Que nous sommes à l'époque de la vitesse, n'est-ce pas ? Et c'est accentué par les technologies de l'information et l'instantanéité qu'elles permettent. Et ce que nous avons fait depuis un an et demi seulement, c'est que nous avons créé ce que nous appelons une procédure d'urgence. Et chacun de nous peut estimer que tel mot est en train de s'implanter, tel mot en général anglais est en train de s'implanter, que c'est préoccupant. Et à ce moment-là, on bouscule un petit peu l'ordre du jour, on fait accepter par une sous-commission que nous avons constituée en notre sein, et chacune de nos séances commence par l'examen de termes dits d'urgence. Ça peut nous être, c'est assez souvent le cas aussi, demandé par le pouvoir politique ou administratif. Mmh. Le ministre ou le Premier ministre ou le ministre de la Culture nous dit, voilà, mes services emploient tel mot, à tout va. Ça s'est produit notamment récemment à propos des histoires de droits d'enregistrement sur Internet. Vous voyez, le ministre de la Culture voyait se développer à propos d'une affaire qui était de son ressort, aussi bien dans la presse qui rendait compte de ses négociations que dans son administration, des termes d'abord peu compréhensibles, tous venus de l'anglais, et il nous a demandé rapidement de proposer des équivalents français qui soient compréhensibles par tous.
À titre personnel, quel temps cela vous demande de vous occuper de ces travaux de la Commission générale de terminologie et de néologie ? Puisque vous avez une activité de professeur à côté.
Bien sûr. Eh bien, il y a un temps qui est le temps minimum, je dirais, c'est celui de la séance mensuelle du mercredi matin. Donc ça nous demande une matinée qui se termine à 13h30 à peu près. Et il y a la préparation des documents. Nous avons à peu près 200-220 pages de documents pour chaque séance. Donc, ces documents, nous devons...
Lecture attentive obligatoire.
Voilà, il nous appartient, oui, peut-être pas de toutes les fiches, mais de celles qui nous intéressent et sur lesquelles nous estimons compétents. C'est-à-dire qu'il est évident que quand la liste de la chimie m'est passée sous les yeux, je me suis senti un peu dépassé et j'ai laissé, évidemment, la parole à... Nous avons des chimistes parmi... Enfin, des gens qui savent très bien, qui ont enseigné la chimie au plus haut niveau. L'ancien directeur de l'École normale supérieure, Étienne Guillon, qui a été très actif pour toutes ces listes, parce que c'est son domaine, bien entendu. Donc là, c'est suivant les intérêts et la compétence que nous avons. Nous avons aussi des discussions entre nous et par rapport à l'administration qui nous héberge, qui est la délégation générale, ça peut se passer par Internet, n'est-ce pas ? Nous pouvons proposer tel ou tel terme, faire telle proposition, avoir déjà les réactions. Donc tout ça est un travail préparatoire. Nous avons constitué aussi une commission préparatoire parce que nous allions trop lentement par rapport à justement à cette urgence qui est extrême et cette avalanche de termes étrangers qui nous tombent dessus. Donc nous avons constitué depuis un an et demi une commission préparatoire qui est constituée de certains d'entre nous, qui se réunit une fois tous les mois, donc ça veut dire des réunions tous les 15 jours pour ceux qui en font partie, et qui fait un très gros travail qui est devenu indispensable très rapidement. Elle est présidée par le professeur Robert, notre confrère le professeur Robert, et elle comprend notamment l'ambassadeur François Plaisant et le linguiste Monsieur Prado, et aussi l'inspecteur général Marc Baconnier, et puis ceux d'entre nous qui veulent en faire partie suivant les circonstances. Et cette commission préparatoire écluse toutes les propositions des 18 commissions spécialisées en mettant déjà de côté tout ce qui ne fait pas problème. Et vous voyez, ce travail est considérable et nous fait gagner énormément de temps. Et cette commission préparatoire veille aussi à formuler le plus précisément possible les points qui posent problème. Ce qui fait que dès que nous nous mettons au travail le mercredi, nous savons déjà, et nous avons même des conventions typographiques dans les documents qui nous sont donnés, tout de suite, on attire notre attention
sur les
termes
les points
et les définitions qui font problème. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite.
Alors Alexandre Grandazzi, on se rend bien compte donc de l'assiduité que cela représente, de la régularité, de l'attention. Ce n'est pas une commission, comme il existe bien souvent des commissions un peu, bon, dont on peut se demander à quoi elles servent.
Oui, je sais qu'il est de bonne de se moquer des commissions. Voilà. J'ai fait moi-même partie d'autres commissions, mais je n'ai jamais eu le sentiment que c'était inutile. Et en tout cas, celle-ci, la Commission Générale de Terminologie et de Déologie, vous le voyez, travaille beaucoup et produit beaucoup. Je vous ai apporté, là, vous voyez, plusieurs publications, mais il y en a plusieurs dizaines par an. Et le problème qui se pose ensuite, et c'est finalement la raison aussi de notre entretien, c'est ensuite de faire accepter ces termes que nous proposons.
Et là, évidemment, c'est là que les choses vous... Alors, dépendent de vous dans une certaine mesure, puisqu'il y a un travail de communication. Et après, ça dépend de la réception par les médias, l'opinion.
Voilà. Bon. Alors, je me souviens que... Je me souviens que...
Irrationnel.
Oui. Et puis, il y a une part de mode aussi. Je me souviens que l'an dernier, par exemple, nous étions quelques-uns à avoir lu dans un grand hebdomadaire, que je ne nommerai pas, un entrefilet, un petit article, un peu ironique sur les travaux de notre commission, parce que nous venions de publier la liste de l'informatique, et on se gaussait de nos travaux en disant, regardez cette commission qui veut remplacer hacker par fouineur ou par pirate. Mais nous avons répondu, par la plume de notre président, que ce n'était pas un projet déraisonnable. Et j'ai vu d'ailleurs dans les numéros suivants de cet hebdomadaire, dans le courrier des lecteurs, que
les mots étaient utilisés.
Ces mots étaient considérés comme de très bonnes propositions par certains lecteurs. Et il ne faut pas désespérer d'expurger un jour définitivement le mot que je viens de mentionner et que je ne répéterai pas. Vous savez, c'est comme les cours de thème latin, il ne faut jamais dire aux étudiants la forme erronée. Voilà, donc je l'ai dit une fois, mais je ne le redirai pas.
On n'a pas entendu quasiment.
Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on termine, puisqu'il nous reste malheureusement que quelques minutes, mais sur deux points, si vous le voulez bien. D'abord, les titres de films.
Oui,
puisque ça fait l'objet aussi quand même de débats. Et puis sur certains mots en français auxquels on ajoute des lettres pour les féminiser, défenseur par exemple, EURE, oui. Écrivaine. Est-ce que vous avez déjà discuté de cela en commission?
Oui, nous en avons discuté. Alors je prends d'abord la question des mots féminins. En réalité, le débat est un petit peu biaisé dans la mesure où il avait été posé il y a une dizaine d'années en des termes, à mon avis, inadéquats et avec des préjugés qui n'étaient que des préjugés. En réalité, il y a des mots qui désignent une fonction masculine qui sont féminins. On dit une sentinelle. Et que je sache...
Une recrue,
l'efficacité, la virilité des sentinelles n'a jamais été diminuée par le fait que c'est un nom féminin. Donc, moi, j'accepte quand une de mes collègues me dit qu'elle veut être appelée Madame la professeure, URE, je l'accepte. Cela dit, je constate que celle-là même qui me le demandait il y a 5-6 ans, me le demande de moins en moins, parce qu'à chaque fois, il y a des étudiants qui croient une faute d'orthographe, où la forme est pas très heureuse, et finalement c'est en train de s'en aller, mais c'est pas, pour le coup là c'est pas très très important. Il y a des mots qu'on met au féminin naturellement, directeur, directrice, ça pose pas de problème, président, présidente, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet, de toute façon présidente n'est pas choquant, n'est-ce pas, passe très bien, donc je crois que le débat avait été un petit peu, comment dirais-je, transformé en polémique sous l'effet peut-être de présupposés, de préjugés, d'arrière-pensées aussi, qui n'étaient pas forcément à leur place. Moi, je ne suis pas contre. La position de la commission, elle est de toute façon nuancée, au coup par coup. Écrivaine, j'avoue que je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça marche bien auprès du public.
On le voit assez peu quand même.
On le voit assez peu. Professeur avec un E, je vous dis, oui, ça... D'abord, ça aboutit pratiquement à la même prononciation.
À la Sorbonne, il y a beaucoup de boîtes aux lettres avec professeur avec un E?
Non, franchement non. Ça dépend peut-être des universités. Il y a peut-être des universités où on met plus le E à professeur que d'autres.
Les titres de films?
Oui, alors les titres des films, c'est je crois un sujet plus sérieux et plus préoccupant. Parce que se passe-t-il? Que les films anglo-américains gardent leur titre anglo-américain lorsqu'ils sont projetés à Paris, qu'ils gardent ce titre sur les affiches, on peut le comprendre et l'admettre. Mais le phénomène qui nous préoccupe beaucoup et qui préoccupe notamment Marc Fumaroli, notre nouveau président, c'est que vous avez des films espagnols, cubains, indiens, italiens, et j'en passe, vous avez compris que je veux désigner par là des films qui ne sont pas anglo-américains, qui ont un titre dans leur langue originale. Et lorsque les producteurs le projettent à Paris, et font de la publicité pour ces films grâce à des affiches, par le biais d'affiches. Imaginez-vous, et vous l'avez remarqué certainement, qu'ils leur donnent maintenant un nom anglais, un titre en anglais. C'est-à-dire que, alors j'aurais peut-être dû préparer des exemples que je n'ai, qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais,
ce qui est invraisemblable quand même.
Voilà, vous avez des films qui ont un titre en espagnol, par exemple, et qui se mettent à avoir un titre anglais parce qu'ils passent à Paris. Et nous sommes la seule capitale européenne où ce phénomène se produit. Donc nous sommes très très...
En Allemagne, le titre espagnol va être traduit en allemand. En Italie aussi, en Angleterre,
en
évidemment.
En Italie, je crois
en
que...
Anglais, mais...
Oui, je crois que dans d'autres... Enfin, se produit avec cette intensité.
Oui.
Il doit se produire sans doute ailleurs, j'exagère un peu, mais avec cette intensité. Ça devient un automatisme chez les producteurs. Donc nous sommes très préoccupés de cela et nous espérons bien faire appliquer pour le coup la loi Toubon qui interdit en principe ce genre de pratique, n'est-ce pas ? Puisque avec les affiches, nous sommes dans l'espace public. Elles sont dans la rue, elles sont sur les kiosques à journaux, donc il n'y a pas... Et c'est d'autant plus absurde qu'encore une fois, ces films ont un titre en langue, dans leur langue d'origine, qui est souvent un beau titre, bien trouvé, voulu par le réalisateur lui-même, et on sait très bien qu'un auteur de livre ou de film réfléchit tout de même à son titre, et que ça veut dire quelque chose, et ce titre, que beaucoup de Français seraient d'ailleurs en mesure de comprendre, on le supprime pour le remplacer par quelque chose qui est en général plus bref et qui est censé être plus excitant. C'est très très dommageable, et là, nous espérons bien remédier à cette situation. On peut espérer y réussir dans la mesure où le milieu du cinéma est un milieu très institutionnalisé, qui est représenté par des personnes et des institutions qu'on connaît bien. Donc on va essayer d'agir, surtout que, il faut quand même le dire, l'État aide le cinéma, aide la création cinématographique.
À plus forte raison.
Alors peut-il l'accepter d'aider cette création cinématographique et de voir, encore une fois, cette espèce de contamination linguistique se répandre ? Je ne
crois
pas.
Et qui sait ? Peut-être comme pour Jacques Perret qui a inventé le mot d'ordinateur, peut-être est-ce lié à une personne qui a décidé, bah tiens, au lieu de traduire de l'espagnol au français, on va traduire de l'espagnol à l'anglais. Si ça se trouve, c'est lié à une initiative personnelle.
Pour dire les choses franchement, je ne connais pas le détail de cette question, mais je soupçonne, parce que c'est assez récent et ça a été assez brusque, je soupçonne qu'on a affaire à une espèce de phénomène de mode et qu'il y a dans les services de mercatique de certaines grandes firmes de production cinématographique du côté des Champs-Élysées, l'idée que ça fera mieux vendre le film.
Si je suis bien cette idée, film espagnol ou d'une autre langue, on va se dire c'est un film, un cinéma d'auteur, peut-être
voilà,
plus confidentiel,
avez,
alors qu'anglais, ça
compris.
Y est, il a reçu
voilà,
un couronnement mondial.
Voilà, exactement. Donc là, vous voyez, il faut lutter contre ça. Alors vous voyez, la commission, elle pourrait dire, elle pourrait aller devant, elle a déjà commencé à s'en occuper, elle pourrait dire à ces gens et à ces institutions, vous êtes contre la loi, etc. Mais nous essayons toujours la persuasion plutôt que la contrainte. Et nous espérons bien être persuasifs.
Merci Alexandre Grandazzi de nous avoir fait partager votre enthousiasme, votre expérience donc de cette commission générale de terminologie et de néologie dont nous avons mieux compris le fonctionnement, tout l'intérêt et puis bien sûr tout le travail maintenant, c'est que l'opinion, les médias s'emparent un petit peu de cette question, fassent écho à tout ce que vous décidez et à tous ces mots que vous traduisez et que vous mettez dans notre langue pour que celle-ci ne soit pas envahie, si je reprends votre expression, par l'anglais. Merci.
Merci à vous.